Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il était né en 1931 et s'est éteint, comme l'on dit, le 21 septembre dernier. Cet homme, c'est Michael Lonsdale, pas loin d'un siècle de vie, plus d'un demi-siècle de vie d'acteur. Récompensé en 2011 à Cannes pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Frère Luc dans « Des hommes et des dieux », ce film sur les femmes moines de Tibérine, une star, comme on dit, qui avait la particularité d'être un chrétien fervent et déclaré. Portrait. Michael Lonsdale, cet ami de Jésus, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On essaie de faire notre part pour rendre hommage à ce grand acteur. Pour nous en parler, des invités, on va dire, de choix, j'ai envie de dire, n'ont pas eu égard à leur qualité, mais peut-être à leur intimité avec cet homme. Allez, honneur aux dames, Anne Fassérias, vous êtes productrice et fondatrice de la Diaconie de la Beauté. Bonjour.
Bonjour.
Daniel Fassérias, vous êtes diacre, auteur, compositeur, cofondateur de la Diaconie de la Beauté. Bonjour.
Bonjour.
Et Monseigneur Robert Le Gall, vous me pardonnerez, pour une fois, je vous cite en dernier, vous êtes prêtre religieux bénédictin, archevêque de Toulouse et évêque du réseau de la Diaconie de la Beauté. Bonjour.
Bonjour, et j'ai ordonné diacre de notre diocèse de Toulouse, Daniel, il y a un an.
Il y a très peu de temps. Approchez-vous tous près des micros. Alors, on va faire connaissance avec cette personnalité. On va essayer de partir du principe que c'est un nom qui nous évoque tous quelque chose, mais que sa vie, on la connaît moins, sauf peut-être pour certains, pardon pour eux, mais ils découvriront certainement des choses au long de cette émission. Et on va parcourir à grands pas sa vie, essayer de connaître un petit peu l'homme, j'allais dire l'envers du décor, eu égard à vos amitiés avec lui, si j'ai bien compris. Et puis à la fin, on essaiera à notre manière, vous essaierez à votre manière peut-être de lui rendre un dernier hommage. On pourrait parler de partir de sa messe d'obsèques le 1er octobre dernier, à laquelle vous étiez, Monseigneur. On en parlera un petit peu plus tard. Je propose de partir du début et de nous faire découvrir un petit peu cet homme. Alors Daniel Fassier, je crois que c'est vous qui allez être à la manœuvre. Il y a une réalité qui dit, semble-t-il, beaucoup de l'homme, de ce qu'il a été, de son chemin. C'est le couple de ses parents, fils naturel de Simone Béraud et d'Edward Lonsdale Crouch, je ne sais pas si on dit bien, militaire, mais c'était un couple un peu particulier.
Oui, en fait, Simone Béraud, alors si on veut remonter plus loin, Michael est le descendant de Talleyrand et du duc de Morny, du côté de sa maman, parce que le grand-père, donc le papa de sa maman, de Simone Béraud, était donc le descendant direct du duc de Morny. Et comme il dit, je suis la cinquième génération d'enfants un peu naturels, puisque chacun descendait de Talleyrand, toute cette succession de naissances était un peu des naissances particulières. Et quand il racontait ça, c'était très drôle. Il faisait sa généalogie à toute vitesse en racontant les anecdotes amoureuses. Alors la dernière, c'est celle de sa mère, puisque sa mère était mariée avec un officier anglais, hispano-anglais qui s'appelait Calderon. Et elle a un petit garçon avec cet officier. Il a 5 ans quand un jour... Il est allé voir un match de rugby. Ce monsieur Calderon va à un match de rugby. Il est assis à côté d'un autre officier, Lonsdale, et ils boivent un peu de bière. Et puis il dit, viens, on va finir la soirée chez moi. Et quand il ouvre la porte de sa maison, Madame Calderon, c'est-à-dire Simone, la maman de Michael, tombe folle amoureuse de ce nouvel officier et elle est partie avec lui.
Alors, ce qu'on peut dire, on y reviendra peut-être hein, sur cette particularité, si je puis le dire les choses ainsi, ça a probablement aussi marqué l'homme et son histoire. On peut dire aussi au début qu'il a vécu au Maroc.
Hein, d'abord à Londres.
D'abord à Londres, après au Maroc, qu'il a même fait ses débuts de radio, si j'ai bien compris, au Maroc.
Oui, il a, dans une pièce radiophonique sur Blanche-Neige et les Sept Nains, il a joué... Il jouait le rôle de la tchoum. Voilà, il a commencé comme ça. Et puis,
il faut toujours commencer par quelque chose.
Ça, il adorait raconter cette histoire.
Et puis après, surtout l'adolescence au Maroc a été marquante pour lui, puisque quand les Américains sont arrivés juste à la libération, il passait, au lieu d'aller à l'école, il passait ses journées à regarder les films américains dans les campements de l'armée.
Alors, quid de sa vocation d'acteur? J'ai vu que donc après-guerre, si je ne me trompe pas, hein, donc il se lance dans le théâtre.
Alors, il est arrivé à Paris en 1947, pardon.
À l'école de Tania Balatchova. Voilà, peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi cette dame est importante. Il faut la retenir.
Alors, il est arrivé à Paris. Il voulait être artiste peintre. Et son oncle, le mari de la sœur de sa mère, était Marcel Arlan, qui était le fondateur de la NRF, avec Jean Paulhan. Et donc, Marcel l'a présenté, comme il voulait être peintre, il l'a envoyé aux ateliers d'art sacré, qui existaient à l'époque, place Fürstenberg à Paris, et qui étaient tenus par les dominicains. Et c'est là qu'il a rencontré le père Régamé et le père Carré. Et après quelques échanges avec eux, bon, pour aller vite, le père Régamé a décelé chez lui cette vocation plus de comédien que de peintre. Et c'est le père Carré qui l'a présenté à Tania Balachova, qui était une école de théâtre très élitiste, de laquelle sont sortis Jean-Louis Trintignant, Delphine Seyrig, Laurent Terzieff, Michel Serrault, enfin toute une bande de... Enfin, ce qui a compté énormément dans le cinéma après.
Alors, je vous propose, on va entendre sa voix, parce que comme ça, ça nous remettra le personnage en tête. Une voix, ça dit tellement d'un homme, et surtout la sienne. On va écouter un premier extrait. C'est donc un des films, semble-t-il, qui a contribué à le faire connaître, « Baiser volé », un film de François Truffaut. Et alors là, la scène dans ce film donc, où il joue un marchand de chaussures qui est un peu angoissé, Monsieur Tabar, et qui vient consulter un détective, se demandant pourquoi. Allez, on va voir pourquoi.
Mais je comprends très bien le but de votre visite. Qu'attendez-vous de moi, au juste?
Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Oui, je sais ce que vous allez me répondre.
Pourquoi est-ce que je ne veux pas voir un psychanalyste?
Alors, c'est pas l'argent que ça me coûterait, ça, j'ai des moyens, croyez-moi. Mais je ne veux pas perdre mon temps à raconter ma vie sur un canapé.
Non, je ne suis pas une femme lettre, n'est-ce pas? Mon magasin me prend trop.
On est bottier 24 heures sur 24, ou alors on n'a qu'à faire autre chose, mon âge.
Oui, enfin, si vous pensez que tout le monde vous déteste, c'est peut-être que vous avez montré du mépris à l'égard de tel ou tel.
Ah non, absolument pas, non, je méprise personne, vous savez, tout le monde peut venir.
Se faire chausser chez Tabar.
Je chausse aussi bien les juives que les femmes arabes, et même les chintocs le jour où elles viendront, à condition qu'elles veuillent bien porter des talons hauts, mais c'est pas demain la veille. Non, je sens que je suis détesté. Et je ne sais pas par qui.
Voilà pour l'extrait. Alors, je me suis dit que c'était important aussi parce que, de fait, je pense que pour la plupart d'entre nous, on a Des hommes et des dieux en tête ou Le nom de la rose. Mais voilà, Michael Lonsdale, c'est bien avant ça. C'est bien d'autres films et grands réalisateurs. On peut en citer d'autres, hein. Louis Malle, Louise Buniel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de sa carrière à grands traits
Alors, juste avant Baiser volé, il a tourné avec Orson Welles Le procès de Kafka. Ensuite, à grands traits, donc disons qu'il a commencé en 1954 avec À l'Est d'Aden, un film de Michel Boiron qui n'a pas eu un grand succès. Et là, à partir de Baiser volé, il a quand même été vu, et donc sa voix particulière a attiré Buñuel, Mocky, Jean-Pierre Mocky, avec qui il a fait une quinzaine de films. Et surtout Joseph Losey, qui l'a introduit finalement auprès des réalisateurs anglo-saxons. Joseph Losey était franco-américain. Et il a tourné donc avec James Ivory. Il a fait un James Bond, Moonraker.
Et joué quel personnage déjà, vous pouvez le rappeler?
Drax, voilà, qui était le méchant.
Voulait la peau de James Bond.
Qui voulait la peau de James Bond, comme tous les méchants de James Bond. Il a tourné avec Steven Spielberg, donc il a tourné dans Munich. En fait, il a tourné avec avec les réalisateurs les plus importants de sa génération à lui. Mais il a toujours eu des rôles, un second rôle. Il n'a jamais été, à part un film de Maurice René en 1974 sur Bartleby, où il a le rôle principal. Autrement, il n'a jamais eu de rôle principal.
Alors pour le reste, on y reviendra peut-être sur sa vie d'acteur. Si j'ai bien compris, il s'est essayé lui aussi à la mise en scène de nombreux textes.
Ah mais de théâtre, c'est
voilà. C'est voilà, pas, de théâtre. Alors est-ce que vous pouvez en dire un mot?
Ah oui, mais d'ailleurs il a mis en scène un spectacle que j'avais écrit sur Bernard de Clairvaux. Mais il a été alors metteur en scène surtout de Beckett. Il a fait beaucoup de mises en scène sur Beckett. Et après, à partir des années 90, après l'expérience qu'on a eue sur Bernard de Clairvaux, il a voulu faire des mises en scène avec des textes chrétiens. Donc il a fait Sœur Emmanuel, il a fait Thérèse de l'Enfant Jésus, il a fait Madeleine Delbrel, il a fait François d'Assise, il a le pèlerin russe. Donc il s'est mis à faire des mises en scène véritablement chrétiennes. Et donc, par contre, au théâtre, il a été l'acteur de grands metteurs en scène, de Claude Régis, donc dans la fameuse pièce qui a eu un grand succès à Paris à l'époque, en 1974, qui s'appelait La chevauchée du lac de Constance, avec Depardieu, Samy Frey, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau et Michael Lansdale. Mais au théâtre, il a joué avec pour Marguerite Duras, pour Beckett. Donc dans le milieu culturel du théâtre français, il est une des grandes figures, plus peut-être qu'au cinéma. Ouais.
Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault.
Il a joué avec Madeleine Renaud.
Très important tout ça.
Oui, Madeleine Renaud, la mante anglaise.
La mante anglaise.
Alors sur l'homme, j'ai cru comprendre qu'en fait c'était un vrai timide, disait-il de lui-même dans une interview du journal La Croix, enfin un portrait. Il disait aussi « À mes débuts, on ne m'entendait pas ». Qu'est-ce que vous pouvez dire pour présenter, allez, Anne Facérias, pour présenter l'homme cette fois, non pas l'acteur? On connaît le visage, on connaît la voix, mais tout le monde ne le connaît pas personnellement. Il a dit aussi à plusieurs reprises que, et on écoutera peut-être un passage à un moment dans l'émission, que souvent on est acteur pour soigner un peu l'image que l'on a de soi-même. Comment vous nous le présenteriez? C'était quoi? C'était un timide
oui,
qui se soignait?
C'est un petit peu ce qu'il disait aussi. C'est-à-dire que par le théâtre, par le jeu, il va partager l'émotion, il va partager ce qu'il est en jouant. Et en fait, il disait souvent que des sentiments qu'il ne pouvait pas partager entre vous et moi, par exemple, il allait le dire dans le jeu. Et dans la vie, il était très joueur. Il était plaisantin, joueur. Et alors, il racontait tout le temps, mais il n'y avait pas une journée sans qu'il ne parlait pas de cette histoire avec Tania Balachova. Il disait vraiment qu'elle l'a sortie justement de cette timidité. Un jour, il était au cours et... elle lui dit, bon, Michael, tu vas me jouer le rôle d'Alceste.
La première scène du misanthrope.
Et donc, Michael commence à dire, oui.
Assez, ça suffit.
Assez, ça suffit, mais très gentiment, etc. Et Tania lui dit, non, Michael, c'est pas comme ça. Tu es en colère, donc il faut vraiment que tu manifestes ta colère. C'est pas pour t'embêter, c'est si tu veux devenir un comédien.
Ça suffit.
Voilà, tu dois. Alors il recommence, et puis un jour, deux jours, trois jours, et en fait il y avait pas de résultat. Et Tania prend les grands moyens et elle lui dit, Michael, si tu ne manifestes pas de la colère quand tu dis cette scène, eh bien je suis désolée, je ne pourrai pas te garder au cours.
Donc ça dit donc le tempérament.
Ça dit le tempérament. Il est rentré à la maison, mais complètement malade, à vomir. Enfin, il était dans un état épouvantable en se disant, mais ma carrière est en jeu, comment je vais faire et tout. Et il est revenu le lendemain et il s'est mis à hurler.
Il avait une chaise.
Il avait une chaise, il a cassé la chaise. Et là, il y a eu un cri énorme. Vous voyez, tu vois, Michael, voilà, c'est ça que je voulais. Et il dit toujours qu'elle l'a libéré de sa timidité.
Alors, avant qu'on fasse une première pause, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu plus aussi de l'homme? Donc, c'est un homme qui est resté célibataire toute sa vie. C'est un homme qui était aussi assez mystérieux à l'image de sa voix. Alors, je disais en préparant l'émission à Mgr Le Gall que moi, j'aime pas trop les... Vous direz, c'est des confidences qu'il a fait, semble-t-il, dans son autobiographie, dans ses mémoires, qui s'appelle Visite, à propos de sa vie personnelle. Mais qu'est-ce qui... Dans ce mystère, c'était quoi? C'était un homme très fidèle en amitié, un homme très aimé de ses proches. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur le mystère Lansdale?
En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est pas un mystère, c'est que Michael a énormément aimé passionnément sa maman et sa tante avec qui il vivait. L'une qui
donc
est...
il vivait à Paris près
il
des Invalides, où il s'était installé
place Vauban,
l'appartement de sa mère.
Il s'est installé avec sa maman et sa tante Et vraiment, il avait un amour profond pour sa maman et sa tante, et qui étaient malades toutes les deux. Hein, donc l'une était a terminé sa vie vraiment sur son lit.
Elle était paraplégique.
Paraplégique. Sa tante, pareil, est tombée également malade. Et donc, et il les a pris en affection. Enfin, je dirais qu'il les a aimés certainement plus que la majorité des enfants pour leur propre mère.
Un de ses amis d'enfance, qui était en Angleterre avec lui quand il avait 5 ans, et qui l'a suivi au Maroc aussi, qui était Jean Maheu, le fondateur de l'ORTF, et qui a fini sa carrière, c'était un haut fonctionnaire qui a fini sa carrière à Beaubourg, disait qu'elle était si belle, sa mère, quand elle était jeune, on aurait dit Marlène Dietrich, et tout le monde était amoureux, et Michael le premier.
Allez, Michael Lonsdale, cette émission, donc cet ami de Jésus, on va faire connaissance avec lui par le biais de le truchement de vos amitiés avec lui, donc il est décédé le 21 septembre dernier, qui a été donc sa messe d'enterrement, d'inhumation, a donc été célébré le 1er octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, cette qui est sainte qui l'affectionnait. On fait une courte pause et on vous retrouve dans quelques instants.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Michael Lonsdale, cet ami de Jésus, c'est pour rappel, en ce lundi matin, c'est le thème de l'émission Vivante Église. On fait connaissance avec cet homme, avec Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, évêque du réseau de la Diaconie de la Beauté, avec accompagnateur pardon, du réseau de la Diaconie de la Beauté, Daniel Facerias, qui est donc diacre, auteur, compositeur, interprète, c'est fondateur de cette diaconie, cofondateur, pardon, et la fondatrice Anne Facerias, qui est par ailleurs l'épouse de Daniel et productrice. Alors, on va faire connaissance avec lui par votre biais. On va commencer avec vous, Monseigneur, parce que il est connu du grand public parce que c'était un homme de foi et un homme qui ne s'en cachait pas, surtout, parce qu'on imagine qu'il y en a bien d'autres, peut-être des noms qu'on voit circuler ou qu'on voit sur nos écrans. Il a été baptisé à l'âge de 22 ans. Qu'est-ce que vous saviez de son chemin de foi, non pas peut-être à la fin de sa vie, cette période du renouveau charismatique dont on parlera peut-être un petit peu? Est-ce qu'il vous avait dit des choses? 22 ans, c'est pas banal quand même à sa génération d'être baptisé à 22 ans.
Il faut que je fasse un aveu pour commencer à répondre à votre question. C'est-à-dire que je suis moine bénédictin. Je suis rentré à 17 ans et demi au monastère. Et je l'ai quitté avant la cinquantaine quand j'ai devenu évêque. Donc j'ai un trou énorme au point de vue de ce cinéma, bien que j'étais membre d'un groupe d'amateurs de cinéma quand j'étais jeune, à la fin de mon secondaire, et j'aimais beaucoup le cinéma, ce que j'aime toujours d'ailleurs, et il m'arrive d'aller quand je peux au cinéma ici même à Toulouse, mais j'ai un trou de tout ce que vient de dire Daniel, là,
complètement. Il y a beaucoup d'auditeurs qui se sentiront moins seuls, donc je suis plus proche de vous, on le croit en fait.
N'est-ce pas, Emmanuel, c'est bien ça.
Alors, baptisé avant deux ans, vous étiez baptisé avant de rentrer au monastère.
J'étais baptisé avant de rentrer au monastère largement avant, puisque c'était quelques jours après ma naissance, et lointaine déjà maintenant, comme nous commençons à le savoir. Et puis, je n'ai pas beaucoup entendu parler de Michael Lonsdale, un petit peu tout de même, je ne sais plus par quel biais, d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, quand j'étais au monastère, à quelle date est paru Les Hommes et des Dieux ?
C'était déjà en 2010.
2010.
J'étais déjà à Chouette de Toulouse déjà, mais j'ai vu ce film et j'ai été très marqué par ce film. Et où, en effet, même s'il avait le second rôle, il crèvait quand même l'écran. C'est lui, ce frère Luc, et c'est lui qui a marqué le film particulièrement, avec sa vérité, la justesse de son jeu. Et alors, j'ai découvert cet homme.
Alors, je vous repose ma question autrement dans ces cas-là.
Allez-y.
Peut-être.
Allez-y.
On imagine qu'un archevêque qui rencontre Michael Lonsdale parle quand même un tout petit peu de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous aviez noué une forme d'amitié avec lui ? Est-ce que la foi faisait partie des conversations avec lui ?
Quand le film est sorti, c'est en 2010, me disiez-vous 2010, j'étais déjà archevêque de Toulouse de fait, mais moi je ne l'avais pas rencontré encore à ce moment-là. Et mes amis ici présents, Anne et Daniel Facerias, le connaissaient et m'en parlaient, mais moi je ne l'avais pas rencontré, sauf que assez vite après, donc le fameux synode sur la nouvelle évangélisation au moment duquel
2012,
et donc où était proche de ce synode, oui, Daniel et Anne, donc a commencé à mettre en place la diaconie de la beauté, c'est-à-dire comment se mettre au service de la beauté, qui est un des chemins qui peut mener vers Dieu. Alors, Anne et Daniel m'ont parlé de lui, et que comme peu à peu, je me suis un petit peu, à leur invitation, engagé avec eux sur ce chemin, le chemin de la beauté, comme un des chemins d'évangélisation. Et là, je crois, une des premières fois...
On est venu à Toulouse, avec Michael.
La première fois.
Pour le spectacle Thérèse d'Avila.
C'est ça.
On a présenté un spectacle et c'est là où on s'est tous rencontrés. On a dormi à la
chevêchée. Voilà. Avez-vous parlé de Dieu, puisque telle était ma question, d'être indiscret,
bien évidemment,
puisqu'on me permet d'être la petite souris
de Thérèse d'Avila. Comment voulez-vous, c'est le spectacle de Thérèse d'Avila. Comment voulez-vous qu'on ne parle pas de Dieu ? Franchement,
excusez-moi d'être là.
Je vous en prie. Bienvenue. Dans le mystère de Thérèse d'Avila, qu'on va fêter d'ailleurs dans quelques jours, puisque nous serons lundi où nous sommes actuellement. C'est quelle date ?
Nous sommes le 19.
Nous l'avons fêté déjà. Vous voyez,
il était baptisé, mais il avait aussi fait une expérience du renouveau charismatique. Peut-être que dans ces cas-là, vous pourrez aussi répondre à l'autre. Si vous permettez, je vais juste vous lancer un tout petit peu plus. Tout le monde ne le sait pas, c'est un homme donc qui, comme beaucoup d'entre nous, a eu aussi ses périodes, on va dire, sombres. Il raconte donc que dans les années 80, il a été frappé par une série de décès et qu'il a une longue traversée du désert, même une forme de dépression, si j'ai bien compris, et qu'un jour, il a poussé donc la porte d'une église, la paroisse Saint-François-Xavier à Paris, et qu'il est tombé sur un groupe de prières charismatiques et que là, voilà, on peut lire certains extraits. Cela m'est apparu très clairement. Ce qui allait me sortir de mon chagrin, ce qui me rendrait le goût de vivre, était là. La vie fraternelle, la prière et la louange, Jésus venait à ma rencontre. J'étais fou de joie. Est-ce qu'il en parlait un petit peu, Monseigneur, de cette expérience du renouveau ?
Oui, il en parlait. Et moi, ce qui m'a frappé, d'après ce qu'il a pu nous dire lors de conversations dans les aéroports, quand on était à Rome pour les symposiums, au petit déjeuner, et lors des différents moments ou à Cannes, etc., des petits souvenirs qu'il pouvait évoquer, toujours avec son petit caractère un petit peu enjoué, joueur, enjoué, c'est vraiment, vraiment oui, oui. ça. Fois, il grommelait ou alors il faisait des hiants. C'était un peu le cheval, c'était vraiment étonnant, mais en effet, il évoquait ces moments, et moi j'ai été particulièrement marqué de témoignages qu'il a pu donner sur le Saint-Esprit. Ah, je suis. Et une chose qui a été redite à l'occasion de ses obsèques le 1er octobre à Paris, à Saint-Roch, c'est que, et quand il a joué dans tel ou tel spectacle, ou dans tel spectacle, au théâtre, particulièrement, le rôle de Saint-Séraphin de Sarov, un des grands saints de l'Orient, de l'Orient, et qui, et lui, dans le fameux entretien avec Molotilov, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Et la réponse que donnait ce saint moine, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit Saint vienne, et vraiment, c'est du Saint Paul tout craché. Qu'est-ce que, au chapitre 8e des Romains, qu'est-ce que dit Saint Paul? Ceux qui se laissent guider par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu.
Alors qu'est-ce que Michael Lonsdale en disait?
Il disait, pour lui, il avait acquis, non pas l'Esprit Saint, j'ose pas le dire à sa place, mais il avait acquis la conviction que l'Esprit Saint était au cœur de la vie spirituelle. Vous me direz, c'est une évidence, la vie spirituelle, la vie de l'Esprit, bien évidemment. Mais ce témoignage m'a particulièrement marqué de l'Esprit Saint, l'acquisition de l'Esprit Saint, vivre, de prier l'Esprit Saint, la prière à l'Esprit Saint dans les circonstances les plus difficiles de sa vie ou les circonstances ordinaires aussi, de toute manière, ça, c'est quelque chose qui, voilà, pour moi, c'est ce témoignage qui m'a le plus marqué.
On va écouter un deuxième extrait, c'est un extrait donc des Hommes et des Dieux, lorsqu'il va trouver son prieur, Christian de Chergé, c'est une fameuse réplique de ce film qui lui a valu donc le César du meilleur second rôle, qui dit peut-être quelque chose de la liberté de l'Esprit-Saint.
J'ai jamais eu autant de consultations. J'en suis à 150 par jour, tu te rends compte? Les gens viennent de tous les coins de la région. Alors j'ai affaire à des pathologies nouvelles, beaucoup d'hypertension, de gens stressés et certains en état de choc, sans parler des gosses qui, eux, subissent tout ça.
Les gens du village risquent de parler de ces hommes que nous soignons. Il faut faire attention.
Christian, pendant toute ma vie de médecin, j'ai eu affaire à toutes sortes de gens très différents, y compris des nazis, et même le diable. Tu sais, j'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
Voilà, c'est une fameuse réplique donc dans Des Hommes et des Dieux, il faut le dire pour ceux qui par hasard qui ne l'auraient pas vu, qu'il joue donc un médecin, c'est un frère convers, sauf erreur de ma part, donc il a une vie un petit peu à part à côté du couvent et il soigne tous ceux qui viennent dans ce couvent de Tibérine, donc frère Luc qui a bel et bien existé et qui a été joué par Michael Lonsdale. On peut continuer sur sa vie de foi, mais alors puisqu'on a des intimes de Michael Lonsdale, est-ce que vous pourriez nous parler de son appartement? Parce que tout le monde n'a pas un appartement, semble-t-il, comme Michael Lonsdale. Ah. Et j'ai l'impression que ça dit voilà, l'épaisseur, la profondeur de cet homme, peut-être venu d'un autre âge pour beaucoup d'entre nous. Anne Fasserias, vous qui, semble-t-il, avez passé pas mal de temps dans son appartement, à quoi ressemblait ce dédale?
Écoutez, grand appartement, magnifique, au cœur de Paris, mais vraiment un appartement d'artiste. Beaucoup de choses. On avait parfois du mal à s'y reconnaître, mais Michael savait très bien où étaient rangées ses affaires, très ordonné par rapport à tous les projets théâtre, tous les projets cinéma, tous les courriers qu'il recevait, auxquels il fallait répondre. Mais quand même beaucoup de choses dans un appartement peut-être pas assez grand pour tout mettre. Et la période du confinement, mystérieusement, pendant 3 ans,
ça n'a pas dû être une épreuve pour lui avec un appartement pareil, non?
Oui, on s'est tout à fait occupé très très bien et on n'avait pas de visite puisque moi depuis 3 ans donc j'accompagne énormément Michael au niveau de son quotidien.
Parce que donc vous étiez pendant le temps de confinement avec lui dans son appartement,
oui.
C'est ça que vous laissez entendre, d'accord?
Oui, oui, bah, mais même depuis plus longtemps, si vous voulez. Mais le confinement, on n'était pas de visite, donc pas de rendez-vous, pas de sortie. Et Michael, ça, c'était nouveau pour lui, parce que jusqu'à la fin de sa vie, on a gambadé, on a voyagé. Notre dernier voyage, donc, c'est à Rome au mois de février, à l'occasion de notre symposium. L'avant-dernier voyage...
Symposium de la Diaconie
de la Diaconie de la Beauté. Okay. L'avant-dernier voyage, c'est à Lourdes, l'année dernière, en novembre, au moment de la conférence des évêques. Et avec Michael, aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup sortir. Donc, et le confinement nous a obligés à rester dans l'appartement, sans sortie, sans visite. Et ça nous a permis d'avoir 3 mois de... C'était très beau parce qu'en fait, on a fait comme une relecture de sa vie. Parce que lui n'aimait pas trop ranger. C'était pas son truc. Et moi, je lui disais, bon, bah, peut-être qu'il faut que tu nous aides aussi à mettre de l'ordre dans tes affaires pour justement savoir tout ce qu'il y a. Et lui seul peut avoir des...
Alors, il y avait, semble-t-il, une autre réalité de cet homme qui est moins connue, c'est qu'il était pas seulement donc dévoué à sa mère et sa tante, vous l'avez dit, mais c'était aussi, il répondait à de multiples sollicitations et j'ai cru comprendre qu'il accompagnait beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui appelaient chez lui.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'appels. Moi, j'ai été au standard téléphonique de nombreux mois et beaucoup d'appels d'origines très diverses. Ça peut être un réalisateur de cinéma, ça peut être un producteur de théâtre, ça peut être un artiste, ça peut être un pauvre.
Mais des gens qui se confiaient à lui, pour qui il avait, on va dire, un peu un rôle de guide.
Rôle de guide, je ne sais pas, mais rôle de grand frère, rôle de papa, parfois. Les derniers mois de sa vie, j'avais des appels, il ne pouvait plus répondre au téléphone, donc je prenais tous les messages. Oui, alors je suis le filleul de Michael. Oui, alors je suis la filleule de Michael. Mais alors là, j'en ai eu beaucoup. Et alors, j'allais voir Michael, je disais, mais tu sais, ça, c'est le nom de ta filleule. Ah oui, oui, il s'en rappelait sans s'en rappeler, enfin. Mais ce qui veut dire que quand on demande d'être le parrain, ça veut dire qu'on donne une confiance au niveau spirituel importante. Et voilà.
Avant qu'on revienne peut-être sur le dernier adieu auquel vous étiez présent, Monseigneur Le Gall, à propos du métier de comédien, j'ai lu une belle phrase qui était, semble-t-il, d'un dominicain qui lui avait été dit au début de sa vie, vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne d'autre.
Absolument.
Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on dit en général aux acteurs.
C'est
Régamé qui a dit ça, le père Régamé.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de cela et du lien que ça a avec...
Le père Régamé a été pour Michael à la fois son papa, son guide spirituel, son...
Donc c'était un dominicain qui l'a accompagné au début de sa vie.
Oui, et qui est mort en 1996. Moi, j'ai connu Michael par le biais du père Régamé, parce que je fréquentais l'aumônerie des artistes dans les années 80. Et Michael venait, parce que le père Régamé y était. Et c'était juste au moment de sa crise, quand il a perdu sa mère et sa tante. Donc c'était... Et pour aller plus loin dans ce que lui avait dit le père, Michael... parce que dans l'école de Tania Balachova, c'est ce qui a donné naissance un petit peu à ce qu'on a appelé l'actor studio aux États-Unis, où on essayait de se mettre vraiment dans la peau du personnage. Et Régamé lui a toujours dit non. Tu restes Michael, tu prêtes ta voix et ton enveloppe au personnage, mais tu ne touches pas à l'intérieur de ton cœur. Et alors du coup, il avait compris la parade, et c'est ça qui a fait le génie de Michael. Et il nous disait toujours, pour être un vrai comédien, il faut avoir 5 ans. Parce que quand on a 5 ans, on peut jouer le gendarme, le voleur, on peut jouer n'importe quoi, parce qu'on ne se regarde pas. Les autres nous regardent, mais nous, on ne comprend pas qu'on nous regarde. Et je peux jouer les méchants, tous les rôles, parce que j'ai 5 ans. Et en fait, c'est Régamé qu'il y a...
Tout en restant soi-même. Donc.
Tout en restant soi-même. C'est-à-dire, quand on a 5 ans, on n'est pas... On ne se prend pas pour... On joue.
On n'a pas de double,
on
n'a pas de personnalité.
Voilà, on joue. C'est un jeu, c'est pas... Et ça lui était...
Alors vous qui êtes celui qui a vu le plus de films de Michael Lonsdale, donc peut-être juste derrière, non, juste avant Monseigneur Le Gall.
Merci.
En tout cas, il n'y a pas Netflix dans les... dans les cellules des moines, c'est une bonne nouvelle.
C'est exact. J'ai découvert Netflix par le biais de Ned de Confirmant qui m'a
parlé. Attendez, la question n'était pas sur vous et Netflix, monseigneur, on parle de Michael Lonsdale. Daniel Fasserias, qu'est-ce que vous citeriez comme, on va dire, comme exemple dans tous les films, et peut-être un film qui peut évoquer quelque chose aux auditeurs, qui illustre cette belle parole, vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne d'autre.
Mais James Bond, quand il joue dans James Bond, Drax, qui est un épouvantable monstre de méchanceté, c'est un enfant. Et puis quand il raconte quand il racontait le tournage, il s'amusait comme un gamin de 5 ans, c'est-à-dire que les répliques, tout ça, mais il les prenait. Et il était crédible en même temps dans ce rôle, mais il n'a jamais été affecté par ce rôle-là. Et le lendemain, il pouvait jouer au théâtre un personnage profond, jouer Claudel.
Hibernatus.
Oui, alors Hibernatus, il y a une anecdote très drôle. Si vous voulez,
rapidement, après, on écoute un extrait.
Il n'avait jamais joué avec... avant Hibernatus, il n'avait jamais joué avec De Funès. C'est un film d'Edouard Molinaro. Il arrive au studio de Boulogne-Billancourt, en avance, parce que Michael était très ponctuel. Et il prend un café au bar du studio, et l'assistant de Molinaro vient lui dire « Vous avez déjà tourné avec M. De Funès ?»« Non, non. M. Molinaro tient à vous dire que ne vous laissez pas prendre la réplique par M. De Funès, parce qu'il ne va pas vous laisser en placer une. Même si c'est écrit. Et la première scène qui tourne, elle est devenue mythique. C'est une improvisation qui vient de Michael. Donc, la scène commence et De Funès lui dit « Ah, vous allez me dire bonjour et vous allez me demander combien... » Au lieu de... Il n'a même pas laissé le temps de lui dire « Comment allez-vous ?» Et Michael l'interrompt et lui dit « Mais vous dodelinez ?» Et alors, je dodeline. Et alors, Claude Jeansac, l'actrice qui... Mais oui, vous dodelinez. Ah bon ? Alors, la scène est partie et il a pu rentrer dans le... Sinon, il lui mangeait tout son rôle.
Alors, on va écouter un autre extrait. C'est le début de ce qu'il a dit lorsqu'il a reçu le César pour le meilleur second rôle. C'était donc en 2011 pour Des Hommes et des Dieux, pour son interprétation de Frère Luc.
Ah, te voilà, petit coquin, hein ? T'as mis du temps, là. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, dans ce métier, on croit être quelqu'un, on s'aperçoit qu'on est plusieurs. Et je crois que si j'ai voulu être comédien, c'est parce que je me suis porté mal en tant que Michael Lonsdale et qu'il fallait que je sois quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est court, c'est cut, mais c'est parlant et ça dit quelque chose de, on va dire, de cet esprit d'enfance. Et Monseigneur Le Gall, avant qu'on fasse une deuxième pause, vous étiez donc aux obsèques, adieu discret, si j'ai bien compris. Pour une star du cinéma, ça peut surprendre, discret et profond. N'est-ce pas, il a donc été inhumé le 1er octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça fait deux personnes qui avaient compris peut-être un des secrets de la vie spirituelle, non, l'esprit d'enfance.
Précisément, tout à l'heure nous disions aussi que il faut être joueur pour être un artiste qui joue pratiquement un rôle. Donc il faut apprendre à jouer. Et j'avais noté dans un de ses écrits, j'avais noté ces quelques mots. Oui, notre être a besoin de jouer, de garder cette distance permanente avec le réel. Le jeu nous permet d'exister. Ça correspond à ce que Dieu disait, oui, Daniel tout à l'heure. Et je crois que Dieu est un enfant qui joue. C'est merveilleux, cela. Donc, on arrive véritablement là, donc à la croisée entre l'esprit d'enfance, cet intérêt de l'enfant Jésus, etc. Et oui, moi j'étais frappé aussi de cette coïncidence entre ces obsèques et cette fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et m'est revenu à ce moment-là un texte, un des plus beaux textes que je trouve de toute la littérature. Il se trouve dans le journal d'un curé de campagne, c'est de Bernanos, mais et c'est du dialogue des Carmélites de Bernanos, où la vieille prieure, qui était forte normalement, mais qui devenait à ce moment-là craintive au moment de la Révolution, alors que Blanche de la Force, cette religieuse toute jeune et qui est allée à l'échafaud, véritablement. Mais alors, elle a toute une tirade de Bernanos qui est extraordinaire, à la fin de laquelle il y a « Suis-je redevenu enfant ?» dit la vieille prieure. Il faut beaucoup de temps quand on est âgé pour retrouver l'enfance, pour retrouver le moment où on retrouve sa véritable naissance. Suis-je redevenu enfant ? C'est extraordinaire. Alors je pense que c'est justement au cœur du mystère de la personne de Michael Lonsdale. Il y a cette enfance qui joue, et qui se reçoit comme un jeu, comme joue le Créateur lui-même, comme on le lit dans l'Écriture, un texte merveilleux.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Michael Lonsdale, cet ami de Jésus, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec nos invités qui, pour certains, on l'a découvert, donc l'ont fort bien connu. Daniel Fasserias, vous êtes donc auteur, compositeur, interprète. Anne Fasserias, vous êtes productrice. Vous êtes donc, on a bien compris, une intime de Michael Lonsdale, puisque vous nous avez dit que vous avez passé le temps de confinement avec lui, vous avez vécu beaucoup ces derniers temps avec lui, et donc vous l'avez accompagné à la fin de sa vie. Vous nous en direz deux mots à la fin. Vous êtes tous deux fondateurs de la Diaconie de la Beauté, et Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, évêque accompagnateur pour ce réseau qui n'est pas qu'en France. Alors, je vous ai demandé à la fin de cette émission donc, de choisir un texte qui, selon vous, alors ça peut être un texte, on va dire, de lui, ou un texte qui parle de lui, ou d'un auteur qui l'affectionnait particulièrement. Et on va recommencer avec vous, Monseigneur Le Gall, puisque vous avez commencé à dire deux, trois mots d'un court texte que vous avez publié dans Zénith. Vous voulez nous en lire le début et vous allez nous dire le pourquoi de ce petit mot.
Et j'étais marqué, comme on l'évoquait tout à l'heure, par sa dernière messe à laquelle il a participé le 8 septembre, à la fête de la Nativité Notre-Dame.
À laquelle Notre-Dame. Vous avez participé, vous étiez présent.
Il a participé, on était trois.
D'accord.
On était trois, il y avait Michael, Anne et moi.
Donc à Paris.
À Paris, dans son appartement, dont nous avons parlé. Et c'était la fête de la nativité de Notre-Dame, Notre-Dame la petite. La petite Notre-Dame enfant. On retrouve encore cette réalité. Et on y était, dans cet appartement, à la clarté d'une lumière d'automne commençant, cette belle lumière qui commence à devenir belle. Et au soir de sa vie, il gardait, et il a toujours gardé d'une certaine manière, et même il a vécu de plus en plus, quelque chose de jeune, jovial et de joueur. 3J. Jeune, jovial, joueur. Et bien accordé justement à cette célébration que nous avions de la messe de Notre-Dame la Petite. Depuis longtemps, il y avait beaucoup de mal à marcher et à se déplacer. Anne s'en est occupée merveilleusement.
Donc là, vous lisez, je dis pour l'auditeur, vous lisez le texte et vous faites des...
Je commande un petit peu, oui.
Voilà.
Mais il conservait...
Les astérix, c'est l'habitude de la lectio divina.
C'est ça, absolument. Mais il conservait une certaine souplesse des membres et de l'esprit. Et même très handicapé...
Il aimait danser.
Il dansait, il esquissait des mouvements de danse. Et si la vie éternelle, comme le montre la magnifique icône de Roublev, et c'est la espèce de ronde des trois, du Père, du Fils et de l'Esprit, les trois anges, donc il s'initiait à la péricorèse de la vie éternelle.
Et puis je vais vous citer cette fois, les artistes, vous continuez dans ce texte, les artistes sont parfois imprévisibles et nous entraînent là où nous ne voudrions peut-être pas aller, n'est-ce pas en raison de leur inspiration, de leur souplesse à l'esprit, à la grâce, à l'esprit, avec un grand E cette fois, qui souffle en eux et sur eux. Et on sait que la vocation d'artiste, ça n'est pas un métier, c'est vraiment comme un appel. Hein. Daniel Facerias, vous, qu'est-ce que vous avez choisi comme texte? Est-ce un texte de Michael Lonsdal? Si oui, sinon, quel est votre choix et pourquoi?
Que je connais de... Pourquoi ? Parce que d'abord, ça touche les artistes et c'est son chemin qui est résumé dans ces quelques phrases. En fait, il a eu trois grandes conversions dans sa vie. La première, donc, quand il a été baptisé, quand il a reçu le baptême.
À 22 ans.
À 22 ans. La deuxième, c'est à la mort de sa maman et de sa tante, quand il a fait traverser son trou noir, comme il disait. Donc, le renouveau charismatique lui a redonné une lueur d'espérance, et c'est la vérité. Et la troisième conversion, c'est grâce justement à Séraphim de Sarov, où il a intériorisé davantage sa vie spirituelle. Et donc, voilà ce qu'il dit, qu'il en écrit. Juste en préambule, il disait souvent, l'artiste est traversé par une lumière et il ne sait pas d'où elle vient. Et voilà ce qu'il écrit. La conversion nous conduit à la sagesse qui est Dieu, qui dresse sa table parmi nous. Je ne sais pas si je suis devenu sage, mais je sens en moi, par moments, comme une hauteur de vue, un détachement qui me fait considérer les choses autrement. Je ne suis plus le même intérieurement qu'il y a 20 ans. Le travail d'un artiste passe par cette purification-là, et sa sagesse se traduit par la maîtrise de son art. Même s'il est libre de faire ce qu'il veut, et comme il le veut, s'il n'a pas la sagesse, l'artiste sonne creux.
Bon entendeur, salut. Même si ça n'était pas du tout un donneur de leçons. Alors le dernier texte, cette fois, c'est moi qui vous le propose et c'est vous qui allez prendre la parole, Anne Facerias. Donc c'est, sauf erreur de ma part, c'est le dernier livre qu'il a publié, et donc qui est un livre en collaboration avec Christophe Hénin, qui est journaliste, sauf erreur pour ma part, du journal La Croix, Luc Monfrère, le moine médecin de Tibérine, c'est aux éditions Point. Et j'ai relevé quelques phrases dans le prélude et dans l'épilogue. Dans le prélude, j'avais un frère là-bas dans les montagnes algériennes et je ne le savais pas. Il a fallu que 7 moines soient enlevés, séquestrés puis assassinés pour que j'apprenne l'existence de Luc, mon ami, mon frère. Et puis, un autre moment, il parle de la mort de ce frère, donc, qui s'était préparé d'une certaine manière à le lire. Ce rendez-vous mystérieux, il l'attendait sans crainte. À 82 ans, donc c'est frère Luc, il a été emporté par une flambée de violence meurtrière qui a embrasé l'Algérie. Maintenant que je suis plus âgé que lui au moment de son martyre, je sais que l'heure approche. Frère Luc m'a précédé, il me guide et me rassure. Avec lui, je sais que la mort, c'est Dieu. Et puis, il ajoutait, mais ce n'est pas seulement à la fin qu'il faut y penser, toute sa vie a conduit frère Luc à cet instant. Alors vous, Anne Fessérès, vous avez été avec lui à la fin. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce texte qui est de lui ?
Michael parlait de la mort des autres, mais il avait toujours beaucoup de pudeur pour parler de la sienne. Et je pense, et on l'a partagé dans la cuisine, en parlant tous les deux, il m'a avoué, si vous voulez, il avait vraiment peur du passage. Et moi, je priais beaucoup pour que Michael puisse avoir une belle mort, une bonne mort. Et le 26 juillet, les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont venues chez Michael avec Louis et Zélie Martin. Un reliquaire est venu, on a beaucoup prié. Et en partant, j'ai demandé à la médecin, mon ami médecin qui était venu avec le reliquaire, de prier pour que Michael ait une bonne mort, une belle mort. Et elle m'a dit, on va demander qu'il ait la mort de Saint-Joseph, la mort du juste. Et en fait, le 21 septembre au matin, au lendemain du 20, donc, il y a eu quelque chose d'important. Le cardinal Barbarin présidait le congrès de la miséricorde divine à Paris, et auquel je participais. Et je lui ai demandé si son temps le permettait pour qu'il puisse venir donner les sacrements à Michael. Et il est très gentiment, il est venu. Michael ne parlait plus la veille de sa mort, mais je comprenais encore tout ce qu'il disait. Et quand le cardinal est venu, il a voulu prendre sa main et faire une danse avec lui. D'accord. Pour manifester sa joie. Ça rejoint exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'était très émouvant. Michael a reçu ses derniers sacrements de manière extraordinaire. Et le 21 au matin, il a eu, évidemment, moi je ne m'imaginais pas qu'il allait s'envoler ce même jour. Il a eu des respirations fortes, mais je lui caressais beaucoup le front. Et je parlais à côté de lui, on récitait un « Je vous salue Marie » et un « Notre Père ». Et ces respirations fortes se sont, petit à petit, dans la matinée, sont atténuées, si vous voulez. Et moi, j'étais contente, me disant « Ben voilà, il va pouvoir bien dormir, la respiration est moins forte ». Et en fait, la respiration, le cœur, c'est la petite veilleuse qui s'est... qui a diminué, 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 jusqu'à s'éteindre pour le repos éternel. Mais quand j'ai partagé ce qui s'est passé le 21 au matin à mon amie médecin, elle m'a dit « Mais Anne, nous avons été exaucés, c'est la mort de Saint-Joseph, c'est la mort du juste. » Voilà, la petite veilleuse s'est éteinte, s'est envolée comme un papillon sur la pointe des pieds, sans faire de bruit.
Eh ben merci beaucoup de nous confier ça, merci du cadeau que vous faites aux auditeurs, merci à vous d'être venu parler de cet homme. Et on peut voir ses films, les films auxquels il a participé, on peut lire les livres qui ont été écrits sur lui, livre par exemple lire ses mémoires, Visite aux éditions Fayard, ou alors Luc mon frère, le moine de Tibérine, paru aux éditions Point. Et puis vous mettez un autre dans les mains, sur la voie de la beauté et de l'amour, et oui bien sûr, avec le cardinal Poupard, Michael Lonsdale, entretien avec Anne Ferserias, paru aux éditions Teki. Évidemment ça parle de la diaconie de la beauté. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.